Charles et Mary Lamb, conte tiré de Shakespeare, le conte d'hiver. Il n'y avait pas dans toute la Sicile de ménage plus heureux que celui du roi Léonte. Sa femme, la vertueuse reine Hermione, l'adorait et il la payait abondamment de retour. Mais au milieu de cette félicité, il lui manquait son ami et compagnon d'enfance, Polixène, roi de Bohême, qu'il n'avait pas revu depuis de longues années que celui-ci avait été appelé au trône par la mort de son père. Sans doute, les deux souverains échangeaient fréquemment entre eux des lettres, des présents et des ambassades. Mais tout cela ne valait pas une bonne et franche accolade, et Léonte eût donné tous les joyaux de sa couronne pour que son vieux camarade vît de ses propres yeux tout le bonheur domestique dont la belle Hermione était l'infatigable dispensatrice. Enfin, après bien des invitations pressantes, Polixène se décida à quitter ses états pour se rendre à la cour de Sicile. Ce fut tout un événement. Il y eut entre les deux rois d'interminables effusions de tendresse. Les fêtes succédèrent aux fêtes, et Hermione se montra, ce que son mari avait désiré qu'elle fût, pleine de prévenance pour l'auguste visiteur. Le jour vint, cependant, où Polixène annonça son intention de reprendre le chemin de la Bohême. Mais Léonte s'opposa chaleureusement à son départ, et comme Polixène ne se rendait pas à ses pressantes instances, il pria Hermione de joindre ses sollicitations aux siennes pour décider son ami à prolonger son séjour en Sicile. Malheureusement pour elle, Hermione fut si gracieuse et son éloquence si persuasive que Polixène lui accorda ce qu'il avait refusé à son mari et consentit à rester quelques semaines encore. Par une étrange inconséquence, Léonte se sentit froissé du succès d'Hermione que lui-même avait provoqué. Puis il en vint à oublier la droiture et l'honnêteté indiscutable de son compagnon d'enfance et à soupçonner l'ange de vertu qui partageait son trône et sa couche royale. De là aux angoisses de la jalousie, il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi par l'infortuné monarque. Tout son bonheur d'autrefois fit place aux tortures du doute, puis à une rage concentrée qu'augmentait chaque jour 1000 petits détails de la conduite de la reine, fort innocents en eux-mêmes, mais qui, aux yeux du jaloux, prenaient les proportions d'autant de crimes de lèse fidélité conjugale. Bref, d'amis dévoués et confiants, d'époux tendres et passionnés, il devint soudainement le plus sauvage, le plus inhumain des monstres. Camillo dit-il un jour à l'un des seigneurs de son entourage, « Hermione me trompe, et le coupable est Polixène. Je veux que d'ici 48 heures, tu aies empoisonné ce traître. » Mais Camillo, plus perspicace que son roi, se garda bien de commettre un tel forfait. Quand Léonte apprit la fuite de celui qu'il appelait le ravisseur de sa félicité, il marcha droit aux appartements de la reine, lui arracha des bras son tout jeune fils Mamillus, qui lui racontait d'amusantes histoires d'enfant, et la fit jeter brutalement en prison. Mamillus aimait sa mère tendrement et comprit, malgré son jeune âge, qu'elle était déshonorée par les humiliants procédés de son père. Et il en ressentit un si profond chagrin, le pauvre petit, qu'il en perdit l'appétit et le sommeil, au point que l'on désespéra bientôt de sa vie. Mais le roi était trop aveugle pour y prendre garde. Tout entier à sa jalousie et à sa rage, il ordonna à deux seigneurs siciliens, Dion et Cléomène, de partir pour Delphes et d'y consulter l'oracle du temple d'Apollon sur la culpabilité de la reine. Pendant ce temps, la malheureuse princesse donnait jour à une fille dans son cachot, et la venue de ce joli petit être la consolait quelque peu de son infortune. « Charmante prisonnière, lui disait-elle 1000 fois le jour, en la couvrant de ses baisers maternels, je suis tout aussi innocente que toi. » Toutes les dames de la cour s'apitoyaient sincèrement sur le sort d'Hermione, qu'elles aimaient autant qu'elles la respectaient pour son rang et pour sa vertu. L'une d'elles, Paulina, la courageuse épouse du seigneur sicilien Antigonus, apprenant la naissance de la petite princesse, se rendit à la prison où gémissait la reine. « Je vous en supplie, Emilia, dit-elle à la dame d'honneur préposée au service d'Hermione, priez sa majesté de me confier son précieux bébé. Je veux le porter au roi, son père, et le déposer à ses pieds. Peut-être la vue de ce chérubin parviendra-t-elle à l'attendrir. « Excellente dame, répondit Emilia, je vais de ce pas communiquer votre désir à notre vénérée maîtresse. » Nul doute qu'elle n'y acquiesce avec joie, car ce matin même, elle souhaitait que quelque noble cœur se chargeât de porter son enfant au roi. « Dites bien à sa majesté, ajouta Paulina toute joyeuse, que dussé-je en pâtir, moi et les miens, je tiendrai au roi un langage ferme et hardi. « Que les dieux vous récompensent de tant de dévouement, dit Emilia, qui se hâta d'aller faire part à Hermione de ce gracieux message. » Quelques instants après, la dame d'honneur revenait portant dans ses bras le nouveau-né. Paulina s'en saisit avec respect, se rendit au palais de Léonte, et, en dépit de son mari, qui redoutait la colère du roi, elle insista pour être admise aussitôt en présence de sa majesté. Toutes les portes s'ouvrirent devant sa détermination et son courage. « Roi, dit-elle humblement tout d'abord, après avoir tendrement déposé au pied du trône son innocent fardeau, « voilà la fille et celle d'Hermione, ta fille et ta prisonnière. Ne te plairait-il pas d'embrasser ce petit ange ?» Mais Léonte ne lui répondit que pour lui reprocher l'audace grâce à laquelle elle avait réussi à parvenir jusqu'à lui. Sans s'émouvoir de cet emportement, la vaillante Paulina changea alors de ton et d'attitude. Elle accusa le roi de cruauté et d'injustice. Puis elle fit un éloquent appel à son cœur de père, et quand elle vit que ce cœur était aussi mort que celui de l'époux, elle éclata en imprécations contre la barbarie du monarque. « Antigonus !» cria le roi au mari de Paulina, qui assistait à cette scène émouvante, « fais sortir cette femme de ma présence !» Le lâche obéit sans mot dire. Paulina se retira l'âme navrée. Mais dans l'espoir que se voyant seule avec sa fille, Léonte reviendrait à des sentiments plus humains, elle avait laissé l'enfant au pied du trône. Ce généreux espoir devait être trompé. Paulina avait à peine disparu que le roi commanda à Antigonus de prendre l'enfant, de s'embarquer avec elle et d'aborder sur quelques rivages déserts, d'où il l'abandonnerait pour l'y laisser mourir. Le misérable courtisan était loin de ressembler à Camillo, et il exécuta à la lettre l'ordre infâme qu'il avait reçu. Léonte était si convaincu de l'infidélité d'Hermione qu'il n'eut pas la patience d'attendre le retour des deux seigneurs qu'il avait envoyés à Delphes. Avant même que la pauvre reine fût complètement rétablie de ses couches et de la douleur que lui causait la perte de son enfant, il la fit comparaître devant l'assemblée des notables de son royaume et l'accusa publiquement de l'avoir trompée. Il parlait encore quand Cléomène et Dion entrèrent dans la grande salle du jugement et lui présentèrent la réponse scellée de l'oracle de Delphes. « Brisez ce cachet, dit Léonte, en faisant remettre le pli au chef des juges, devant lesquels, noble et résigné, se tenait debout la reine qu'il avait tant aimée. Qu'on lise ce que dit Apollon. » Or l'oracle s'exprimait ainsi. Hermione est innocente, Polyxène exempte de tout blâme, Camillo un sujet fidèle, et Léonte un tyran jaloux. Le roi mourra sans héritier si celui qui est perdu n'est pas retrouvé. Mensonge que tout cela, s'écria le monarque irrité. Ce sont les amis de la reine qui ont fabriqué cette prétendue révélation des dieux. Qu'on procède au jugement. À ce moment, un messager se présenta tout effaré et annonça au roi que le jeune prince Mamillus, en apprenant que la reine, sa mère, courait le danger d'être condamnée à mort, avait expiré soudainement dans un accès de honte et de désespoir. Un cri déchirant s'échappa de la poitrine d'Hermione. La pauvre mère s'affaissa, haletante, dans les bras de ses dames d'honneur, qui l'emportèrent hors de la salle, et Léonte s'était à peine remis du choc de cette terrible scène que Paulina reparut sur le seuil, pâle et échevelée, et s'écria d'une voix vibrante « La reine est morte, messieurs !» Plus de fils, plus d'épouse. Le cœur de Léonte se brisa au choc de ces deux trépas. « Ce sont les dieux qui me châtient, dit-il en gémissant. Je reconnais trop tard que mon Hermione était innocente et que l'oracle avait raison. Car mon pauvre Mamillus n'est plus, et j'ai tué sans doute ma propre fille. Misérable que je suis, je donnerais mon royaume pour retrouver ma fille perdue par ma faute. » Et depuis ce jour, et pendant de longues années, le roi de Sicile vécut dans le repentir et les remords. Cependant, le vaisseau sur lequel s'était embarqué Antigonus avec l'enfant Hermione avait été jeté par une tempête sur les côtes de la Bohême, où nous savons que régnait le bon roi Polyxène. Aussitôt qu'il avait pu débarquer, le cruel seigneur sicilien avait emporté dans les bois l'innocente créature qu'il devait laisser mourir et l'y avait abandonnée. Mais il ne revit jamais Léonte ni la Sicile. Comme il retournait à son navire, il fut attaqué et mis en pièces par un ours, juste châtiment de son abominable complicité avec le roi, son maître. L'enfant était couverte de joyaux et revêtue de robes d'une richesse toute royale, car Hermione l'avait parée comme une châsse avant de la confier à la courageuse Paulina et de la faire paraître devant son père. En la perdant dans les bois, Antigonus lui avait attaché au manteau un papier portant le nom significatif de Perdita. Ce fut un berger qui trouva la pauvre petite abandonnée. Le brave homme la porta à sa femme, qui, aussi généreuse que lui, lui prodigua des soins tout maternels. Mais la pauvreté, cette grande tentatrice, poussa le père adoptif de la royale enfant à faire argent des bijoux trouvés sur elle, et pour que l'on ne pût savoir d'où la richesse lui était venue si soudainement, il quitta sa cabane et s'en alla dans une autre partie de la Bohême, où il acheta de nombreux troupeaux et devint bientôt un des bergers les plus opulents. Là, il éleva Perdita comme si elle eût été sa propre fille et ne lui laissa jamais soupçonner qu'elle eût un autre père que lui. Les années se passèrent et Perdita devint une superbe jeune fille. Bien qu'elle n'eût reçu aucune éducation que celle des enfants de bergers, elle avait hérité de tant de grâces naturelles et de tant de dignité qu'il semblait qu'elle n'eût jamais quitté la cour de Sicile. Un jour, le jeune prince Florizel, fils unique du roi Polyxène, vint à passer au cours d'une partie de chasse près de la demeure du riche berger. Tout à coup apparut Perdita dans tout l'éclat de sa beauté, de sa modestie, de sa démarche digne d'une reine. Florizel fut touché au cœur et devint éperdument épris de cette perle des prairies. Sous le nom de Doryclès et les vêtements d'un simple citoyen de la capitale, il s'introduisit dans la demeure du vieil éleveur de bestiaux, s'y fit agréer comme visiteur assidu, et s'absenta dès lors si souvent de la cour de Polyxène que celui-ci le fit épier et découvrit son amour pour Perdita. Sans perdre de temps, le roi, accompagné de Camillo, le même qui l'avait préservé de la fureur de Léonte, se rendit sous un déguisement à la demeure du berger où se célébrait ce jour-là la fête annuelle de la tonte des moutons. En pareille occurrence, tout étranger est le bienvenu en Bohême. Les deux visiteurs furent donc accueillis comme des amis. Partout régnait la gaieté et le joyeux laisser-aller qui donne tant de charme aux fêtes villageoises. De nombreuses tables étalaient aux regards éblouis leurs nappes d'une éclatante blancheur, et tout indiquait que dans la cuisine se préparait un abondant et succulent festin. Sur la pelouse qui étendait son tapis vert devant l'hospitalière demeure, dansaient de jolis couples de jeunes garçons et de jeunes filles, tandis que nombre de jeunes gens achetaient à un marchand ambulant, debout près de la porte, qui des rubans multicolores, qui des gants et autres affiquets pour leur pelle. Étrangers à tout ce mouvement et à tous ces plaisirs, Florizel et Perdita, retirés dans un coin bien paisible, conversaient comme deux amoureux qui, en dehors d'eux-mêmes, ne se doutent pas que le monde existe. Le roi était si bien transformé qu'il put, sans exciter leurs soupçons, se tenir assez près d'eux pour ne pas perdre un mot de leur intéressant dialogue. Le langage simple mais élégant de Perdita le frappa de surprise. « Voilà bien, dit-il à voix basse à Camillo, la plus jolie et la plus distinguée petite paysanne que j'ai jamais vue. Tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait semble beaucoup au-dessus de sa condition. » « C'est vrai, répondit en riant Camillo, on dirait la reine de la crème et du lait caillé. » « Mon bon ami, dit alors Polyxène au berger, quel est donc ce joli garçon qui cause avec votre fille ?»« On l'appelle Doryclès, répliqua le vieillard. Il prétend qu'il aime ma fille, et à vrai dire, je serais bien embarrassé de dire lequel des deux est le plus épris de l'autre. Si Doryclès peut faire la conquête de Perdita, elle lui apportera une dot à laquelle il ne songe guère. Le bonhomme faisait allusion aux bijoux qui avaient servi à bâtir sa propre fortune et qu'il avait racheté et conservé depuis avec soin. « Dites donc, jeune homme, fit le roi en s'adressant au faux Doryclès, m'est avis que vous avez au cœur un autre appétit que celui de vos compagnons. Quand j'étais jeune, je n'oubliais jamais de combler ma belle de présents. Mais vous, vous n'avez pas acheté à la vôtre la plus insignifiante fanfreluche. » « Mon vieux monsieur, repartit Florizel, qui ne se doutait pas qu'il parlât à son auguste père, Perdita n'attend de moi que les trésors de mon amour. Oh, Perdita, laisse-moi te dire combien je t'adore, devant ce vieillard qui, lui aussi, paraît-il, a su ce que c'est que d'aimer. » Et le jeune prince se lança dans de brûlantes protestations de tendresse, qu'il termina par cette exclamation intempestive, « Je prends à témoin ce vénérable patriarche de la solennelle promesse que je fais ici de t'épouser. Vieillard, ajouta-t-il en s'adressant à Polyxène, prenez bonne note de ce contrat. Jeune fou, s'écria Polyxène hors de lui, je suis ton père et ton roi. Quelle audace est donc la tienne de t'engager ainsi à une fille de basse extraction, à une bambine de berger. Quant à toi, porteuse de houlettes, si tu reçois encore ici mon fils, je vous ferai pendre, toi et ton paysan de père. Suivez-moi, Florizel. » Et il s'éloigna furieux, accompagné du jeune prince tout confus et de Camillo tout désolé. L'insolent, dit Perdita, dont le sang royal sembla se révolter sous les insultes qu'elle venait d'entendre. Nous voilà tous bien abattus. Mais qu'il ne croit pas que j'ai peur. Je ne sais ce qui m'a retenu de lui dire que le soleil qui brille sur son palais brille aussi sur notre cottage. Enfin, ajouta-t-elle en soupirant, j'ai fait un beau rêve, mais il est fini, bien fini. Allons traire nos brebis, et n'y pensons plus. Mais le bon Camillo allait y penser pour elle. La douceur, l'esprit, la modestie de Perdita l'avaient charmé. Il craignait aussi que le prince Florizel ne consulta plutôt son cœur de jeune homme que sa conscience de fils. Il résolut en conséquence de chercher et de trouver un moyen d'être utile aux deux aimables enfants que la fatalité de leur naissance menaçait de séparer pour toujours. Il savait depuis longtemps que Léonte, le roi de Sicile, se repentait amèrement de sa cruauté envers Hermione et envers sa fille, et il lui tardait de revoir son ancien maître et sa patrie. Il proposa donc à Florizel et à Perdita de l'accompagner à la cour de Sicile. « Je vous réponds de la protection du roi Léonte, leur dit-il, et je me charge d'obtenir pour vous, par la suite, le pardon de Polyxène et son consentement à votre mariage. » Les deux jeunes gens acceptèrent avec allégresse, et un beau jour, accompagnés du vieux berger, ils partirent pour la Sicile avec Camillo. Le voyage se fit sans encombre, et Léonte fit, en effet, à ses visiteurs, un accueil des plus gracieux. Mais il se montra tout particulièrement affable avec Perdita, que Florizel lui avait présentée comme sa fiancée. La ressemblance était si frappante entre la jeune fille et Hermione que Léonte sentit se raviver tout son chagrin. « Ma fille, disait-il, que j'ai si cruellement sacrifiée à mon injuste fureur, aurait le même âge et la même beauté. Et de plus, mon cher Florizel, j'ai perdu l'amitié de votre brave et excellent père, que je serais profondément désolé de ne pas revoir avant de mourir. » Cette douleur du roi fit grande impression sur le berger. En entendant Léonte parler de la fille qu'il avait perdue, le vieillard se prit à comparer la date de cette perte avec celle de sa propre rencontre avec Perdita, couverte de bijoux précieux et de vêtements indiquant la haute naissance de cet enfant trouvé. Il fit part de toutes ces circonstances à Florizel et à Camillo. Il leur parla de la mort d'Antigonus, qu'il avait vu dévoré par un ours, et leur montra les parures et le riche manteau qu'il avait apporté avec lui de Bohême. La vaillante Pauline, femme d'Antigonus, fut appelée et reconnut sans hésiter les vêtements que portait la fille d'Hermione le jour de sa disparition. Elle constata l'identité de l'écriture de son mari avec celle du billet attaché au manteau de Perdita et celle du diamant placé par Hermione elle-même au cou de son enfant. Et la noble femme pleura de joie en voyant si miraculeusement retrouvée la fille de l'infortunée reine. Mais elle versa en même temps des larmes amères sur la mort tragique de son mari, si peu digne qu'il fût cependant de ses regrets. « Oh, ta pauvre mère !» s'écria Léonte quand il embrassa Perdita comme sa fille. Ce fut tout ce que put dire le malheureux roi, que le souvenir de sa barbarie envers Hermione hantait douloureusement, alors même qu'il pressait tendrement son enfant sur son cœur. « Sire, dit tout à coup Paulina, j'ai dans ma demeure une statue de la reine que vient de ciseler et de peindre l'illustre maître italien Giulio Romano. S'il plaisait à votre majesté de la venir voir, vous la trouveriez si ressemblante que vous la prendriez, pour ainsi dire, pour la douce Hermione en personne. « Allons tous la contempler, s'écria le roi, à la grande joie de Perdita, à qui il tardait de voir combien belle était celle qui lui avait donné le jour. Quand tous furent réunis dans la pièce où se trouvait la statue, Paulina donna l'ordre de tirer le rideau qui cachait à tous les regards le chef-d'œuvre de Giulio Romano. Un cri d'admiration mêlé de douleur s'échappa des lèvres du roi. Puis il resta immobile et silencieux, comme si l'étonnement lui eût paralysé les membres et la langue. « Votre silence, sire, dit Paulina, me prouve que je n'ai point exagéré le mérite du grand artiste italien. » « En effet, put enfin dire Léonte. C'est bien là sa pose majestueuse et candide, alors que je lui faisais ma cour. Cependant, Paulina, Hermione n'était pas aussi âgée que l'a fait cette statue. C'est une raison de plus pour admirer l'œuvre de Romano, sire. Il a donné à la reine l'air qu'elle aurait aujourd'hui si elle vivait encore. Mais je vais fermer le rideau. Vous finiriez par croire qu'elle va s'approcher de vous et vous parler. Non, Paulina, je vous en supplie. Oh, je voudrais être mort. Ne croirait-on pas qu'elle respire et qu'il y a dans son regard tout le mouvement de la vie? Votre émotion vous égare, sire. Je vais la voiler de nouveau à vos yeux. Par pitié, Paulina, laissez-moi me tromper ainsi pendant 20 ans. Oh oui, je crois avoir senti son souffle. Merveilleux ciseau que celui qui peut sculpter l'haleine des mortels. Qu'on me raille, si l'on veut, il faut que je l'embrasse. Prenez garde, sire, le vermillon que l'artiste a placé sur les lèvres est encore tout frais. Fermerai-je le rideau? Non, pas avant 20 ans. Je veux que le temps de mon admiration pour ce chef-d'œuvre égale celui qui me sépare aujourd'hui de mon crime. Et moi, s'écria Perdita, qui s'était jetée à genoux devant l'admirable statue, je voudrais rester aussi longtemps aux pieds de ma mère bien-aimée. Laissez-moi tirer ce rideau, insista Paulina, ou préparez-vous à de nouveaux émerveillements. Je pourrais, si je le voulais, donner en effet le mouvement à cette statue, la faire descendre de son piédestal et lui commander de vous prendre par la main. Mais vous m'accuseriez de sorcellerie. Paulina, ordonna Léonte, étonnée d'un pareil langage, fais ce que tu viens de dire. Fais-la même parler. Je suis prêt à tout voir et à tout entendre. Alors, sur un signe de Paulina, sortirent de derrière une tapisserie de lentes et solennelles harmonies, et tout à coup, à la stupéfaction des spectateurs de cette scène étrange, la statue descendit de son piédestal, se dirigea majestueusement vers le roi, lui enlaça tendrement le cou de ses bras flexibles et commença à parler, appelant sur son époux et sur sa Perdita, si heureusement retrouvée, toutes les bénédictions des dieux. Hermione était bien là, vivante et toujours pleine de grâce et d'amour pour les siens. Paulina, pour la soustraire 20 ans auparavant aux rages insensés du roi, l'avait fait passer pour morte. Depuis lors, les deux amis avaient vécu ensemble, et malgré le repentir de Léonte, Hermione n'avait jamais voulu le revoir, parce qu'elle le croyait le meurtrier de l'innocent enfant qu'il lui avait si brutalement ravi. Il est plus facile, on le conçoit, d'imaginer la joie de Léonte que de la dépeindre. Florizel, le vieux berger, Camillo et Paulina furent tour à tour l'objet de ses félicitations et de sa gratitude royale pour la part que chacun d'eux avait prise à d'aussi heureux événements. Et comme s'il ne devait rien manquer à tant de bonheur, le roi Polyxène, qui s'était mis à la poursuite de son fils et de Camillo, arriva sur ces entrefaites, pardonna tout et consentit avec empressement, cette fois, à faire de la porteuse de houlette la princesse héritière de la couronne de Sicile. Ainsi furent récompensées la vertu et la longanimité de l'innocente Hermione, qui, pendant de longues années, jouit en paix de l'amour de son Léonte et de sa Perdita. Après avoir été si longtemps la plus malheureuse des reines, elle fut de nouveau la plus heureuse des épouses et des mères.